la série biblique que nous suivons actuellement dans notre église de Parmoutier concerne le deuxième livre de la Bible qui est l'Exode. Et Nicolas l'a résumé avec un mot, Dieu avec nous. On peut faire un résumé en deux mots, la délivrance et l'alliance. Dans la première moitié du livre, le peuple de Dieu est libéré après des années d'esclavage en Égypte. Et dans la deuxième moitié du livre, Dieu le libérateur dit comment ce peuple doit vivre. Il lui donne des lois. Et les plus célèbres d'entre ces lois, eh bien, ce sont les 10 commandements. Et je vais citer quelques extraits qui se trouvent dans Exode au chapitre 20. Le verset 2, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Et un peu plus loin, verset 13, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Ces 10 commandements, le peuple juif les appelle les 10 paroles. Et le point de départ, vous le voyez à l'écran, ce n'est pas une liste de choses qu'il ne faut pas faire. Le point de départ, c'est un rappel de ce que Dieu a fait. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte où tu étais esclave. Et donc, nous répondons à ce que Dieu a fait, la sortie d'Égypte, la délivrance en Christ. Nous répondons à ce que Dieu a fait en adoptant un certain style de vie, on peut appeler ça une certaine éthique. Et vous avez vu là un bon nombre de commandements qui ont une forme négative. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais derrière ces formes négatives, ces interdits, il y a un double impératif positif que Jésus a rappelé. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. On aime Dieu de tout son cœur. On ne vole pas, on ne trahit pas sa femme. Et ce matin, je vais justement me concentrer sur ce 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère, puis sur d'autres lois en rapport avec le mariage. Je parlerai des fondements du mariage dans toute la Bible. Derrière la forme négative, il y a tout un enseignement positif. C'est un sujet que l'Église d'Oswald-Laferrière m'avait demandé. Et Nicolas m'a demandé de le reprendre ici aujourd'hui. Mais avant d'ouvrir la Bible, enfin, là, déjà ouvert, avant d'aller plus loin dans la Bible, je pense à vous qui êtes là, et à vous en particulier qui pouvez être célibataire. Donc il y a des jeunes qui pensent qu'ils vont se marier un jour. Il y a des moins jeunes qui espèrent qu'ils vont se marier un jour. Il y a des célibataires qui vivent bien leur célibat. Il y a des célibataires qui en souffrent. Il y a des veufs, des veuves, des divorcés. En entendant que j'allais parler de mariage, est-ce que vous avez gémi intérieurement? Ah non, pas ça. Est-ce que vous vous sentez concerné? En fait, nous avons tous besoin de savoir ce que la Bible dit sur un sujet si important. Nous devons être en mesure de présenter un point de vue chrétien lorsqu'au bureau ou à l'école, on vient nous taquiner en disant que les chrétiens ne sont pas en phase avec le monde moderne. Et j'ose même dire que réviser nos classiques, comme là ce matin, réviser nos classiques peut nous empêcher de faire une grosse bêtise. J'ai en tête l'exemple de mes parents. Le 26 décembre 1939, ils ont prononcé devant Dieu des vœux solennels. Ils ont promis de rester fidèles jusqu'à ce que la mort les sépare. Ma mère est décédée le 6 octobre 2001, après 61 ans de mariage. Et dans les vœux du mariage, à cette époque en tout cas, il y avait l'engagement à rester fidèle dans les bons et les mauvais jours. De mauvais jours, il y en avait. Pendant longtemps, ils ont dû patienter à cause de l'opposition de ma grand-mère, qui n'acceptait pas que sa fille épouse un simple commis d'épicerie. Finalement, ma grand-mère a donné son accord, parce que la guerre venait d'éclater, les gens se dépêchaient de se marier avant que l'homme ne parte à l'armée. Dans les tout premiers temps de mariage, mes parents ont dû affronter un problème à peine imaginable aujourd'hui. Ma grand-mère avait inculqué à sa fille une sainte peur des relations sexuelles. « C'est affreux, disait-elle, mais il faut y passer. » Avoir cela en tête le soir des noces, ils ont affronté ça. Puis mon père a été appelé sous les drapeaux et ça fut 5 ans de séparation, de février 1941 à mai 1946, après la guerre. Après la guerre, n'était pas facile non plus. Mon père était aide-soignant, il avait un salaire de misère, ma mère ne travaillait pas. Il raconte que tel Noël, il ne pensait même pas pouvoir offrir un cadeau à leur jeune enfant, à mon frère et moi, et ils ont ressenti comme un miracle de Dieu qu'un patient débarque à l'hôpital juste avant Noël avec des billets pour dire merci à mon père. Et finalement, mon père a dû quitter ce métier qu'il aimait pour devenir facteur. Dans le vieux jour, ma mère était de plus en plus handicapée avec l'arthrose et d'autres maladies. Elle a passé je ne sais pas combien d'années clouée au lit. Mon père faisait tout pour elle, aide-soignant jusqu'au bout. Dans les bons et les mauvais jours, qu'est-ce qui a permis à mes parents de tenir? Par la foi, certainement. Le désir d'être fidèle aux promesses qu'ils avaient prononcées devant Dieu. Et vous diriez que c'était peut-être l'époque, que les gens étaient plus religieux, que le mariage était une institution que tout le monde respectait. Je n'en suis pas si convaincu. Avec la guerre, devant la perspective de la mort, un puissant réflexe biologique poussait les jeunes à coucher sans penser à la suite. L'adultère, ça a toujours existé. L'hypocrisie aussi. Non, ce n'est pas à cause du climat social que mes parents ont tenu. C'est à cause de la foi. À cause de la foi et de l'amour. L'amour leur a permis d'affronter l'opposition de ma grand-mère, d'attendre longtemps avant de se marier, d'attendre les longues années de guerre, de tenir lorsque l'argent ne suffisait pas, d'affronter une longue maladie. L'amour pour beaucoup, et notamment dans les chansons populaires, l'amour est un feu qui dure 1 an, 2 ans, quelque chose d'intense, et puis on change de partenaire à la recherche des mêmes sentiments. C'est un sprint de 100 mètres, si vous voulez. Mes parents ont couru le marathon. Qu'est-ce que la Bible en dit ? L'amour. Et je citerai là un livre biblique qui ne parle que de cela, c'est le Cantique des Cantiques, le plus beau des chants. Et je vais citer juste la fin, une partie de la fin, avec la jeune fille qui parle. C'est dans Cantique des Cantiques, chapitre 8. Juste avant Ésaïe, voilà. Mets-moi comme un sceau, pour partir le petit mot « c'est ». C'est pas un seau avec de l'eau, c'est un seau, un cachet imprimé dans la cire pour authentifier l'authenticité d'un document. Hein? Et encore moins, S.O.T. Bon, ça c'est autre chose. Ah, la langue française. Voilà. Mets-moi comme un seau sur son cœur, sur ton cœur, comme un seau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort, et la passion inflexible comme le séjour des défunts. Les flammes de l'amour sont des flammes ardentes, une flamme venant de l'Éternel. Même de grosses eaux ne peuvent éteindre l'amour, et des fleuves puissants ne l'emporteront pas. L'homme qui offrirait tous les biens qu'il possède pour acheter l'amour n'obtiendrait que mépris. L'amour ne se monnaie pas. Et la première impression, à prime abord, c'est versé par de l'amour passion, de l'amour qui passe. On dirait l'amour passera, il s'éteindra, le temps et les malheurs de la vie l'emporteront sur lui. Et si c'est le cas, il ne s'agit pas vraiment d'amour, peut-être plutôt d'amour propre. Mais regardez ce passage de plus près. L'amour est fort, aussi puissant que la mort, et les fleuves en furie ne peuvent pas l'éteindre. Il est comme le feu de Dieu, l'amour, le vrai, dur. Et c'est exactement ce que la bien-aimée, la fille, désire. Et voilà donc l'image de ce sceau, S-C-E-A-U, ce certificat qui garantit l'authenticité d'un document qui n'a pas été trafiqué, ce sceau S-C-E-A-U qui indique à qui appartient le document, l'objet ou la personne. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Ça, c'est le refrain du cantique des cantiques. Voilà le refrain que chante cette fille qui est comme une reine pour son roi. Vous trouverez que c'est banal, vous trouvez que Jean-Jacques Goldman le dit aussi. Non, ce n'est pas si banal que ça. Il y a des mariages forcés. Il y a des mariages subis à cause d'une pression familiale, une manipulation, comme chez ma tante Marguerite. Il y a des mariages pour raisons économiques ou diplomatiques. La Bible met l'accent sur l'amour. Et si cela commence sans amour, les mariages arrangés entre les familles dans différentes cultures, si cela commence sans amour, les gens peuvent apprendre à aimer. C'est ce que nous espérons. Nous espérons que les gens ne vont pas simplement subir et se résigner. Je vais faire une deuxième citation biblique qui va dans le même sens. C'est plusieurs centaines d'années plus tard, chez l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens. L'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 5 et verset 25. Après Romains et Corinthiens, on va tomber sur Éphésiens 5. Vous avez appris qu'il a dit... Je suis sur la mauvaise page. Non, c'est bon. Voilà. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bien nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Le mari doit aimer sa femme et se donner pour elle. Vous dites, mais c'est banal. Non, ce n'est pas si banal que cela. Et dans la Grèce antique, on peut lire ceci et on va l'afficher. Ça, ce n'est pas la Bible qui le dit. Je vous préviens. Les courtisanes, nous les avons pour le plaisir. Les concubines, pour les soins de tous les jours. Les épouses, pour avoir une descendance légitime et une gardienne fidèle au foyer. Un Athénien du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, du temps de Paul, du temps des apôtres, dans le monde grec, romain, les maris avaient tous les pouvoirs, même à une certaine époque, un pouvoir de droit, un pouvoir de vie et de mort sur l'épouse. L'obligation d'aimer que l'apôtre Paul annonce, ça n'existait pas dans la pensée grecque et romaine. C'était révolutionnaire. Je vais maintenant passer un peu plus loin et je vais réfléchir avec vous avec des interdits que l'on trouve autour du thème du mariage dans la Bible. Il y a un certain nombre de commandements négatifs. On ne couche pas avec des animaux, on ne couche pas avec des membres de sa famille proche, on ne couche pas avec des personnes de même sexe. Et il est sous-entendu aussi qu'on ne couche pas avant le mariage. Mais l'interdiction la plus forte, partout dans la Bible, c'est cette loi fondamentale dans les 10 commandements, « Tu ne commettras pas d'adultère ». C'est quoi l'adultère? Eh bien, pour un juriste, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles en dehors de l'exclusivité du mariage. C'est un célibataire avec une personne mariée ou deux personnes mariées qui trompent chacune leur conjoint. Si un juriste définit l'adultère de cette manière-là, il est assez facile de trouver des arguments pour tout excuser. Ah, mais ni l'un ni l'autre n'étaient mariés. Ils étaient simplement en concubinage. Cela ne peut pas être un adultère. Oh, ils se sont bien amusés, mais il n'y a pas eu pénétration, ce n'est donc pas l'adultère. Ah, mais c'était sur Internet. Ce n'était pas pour de vrai. Ce n'est pas un vrai adultère. Ah, mais ce sont des acteurs, c'est le producteur du film qui voulait cela. Ce n'est donc pas l'adultère. Un juriste va définir de manière étroite et serrée l'adultère pour ensuite excuser mille et une autre chose. Et le Seigneur Jésus-Christ coupe court à tous ces faux raisonnements. Et on le trouve dans Matthieu 5, un passage qui devrait être cité par tout le monde. Matthieu 5, dans le serment sur la montagne, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Or, le juriste, il peut donc aller se rhabiller. L'adultère, c'est déjà dans la tête, dans le désir de posséder, dans le regard qui fait fantasmer, dans l'infidélité cachée, virtuelle, invisible. Et déjà le 10e commandement parle de convoitise. C'est déjà dans l'Ancien Testament, Jésus n'invente rien. Bien sûr, s'il y a passage à l'acte, les conséquences personnelles et sociales sont plus graves, bien plus graves, pour les conjoints et pour leurs enfants. Mais si on commence à se demander jusqu'où on peut aller, pas trop loin, on est déjà infidèle et en faute par rapport à Dieu. Un jour, on a posé à Jésus une question au sujet du divorce. À l'époque, c'était un sujet controversé. Les uns étaient partisans d'un divorce ultra facile. La femme dit quelque chose de déplaisant à propos de sa belle-mère, elle brûle un plat, allez, divorce. Divorce ultra facile. Les autres adoptaient une règle beaucoup plus stricte, limitée au cas d'adultère. Et donc avec une question compliquée qui divisait la société, on espérait piéger Jésus. Mais Jésus va couper court à tous ces débats et il va se référer au principe énoncé dès les origines de l'humanité dans la Genèse. Et je vais citer donc ce que Jésus en dit dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 19 et verset 3. Des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent, « Un homme a-t-il le droit de divorcer avec sa femme pour une raison quelconque ?» Il leur répondit, « N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré, « C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. » Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais les pharisiens objectèrent. Pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce avec elle? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec votre épouse. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Ainsi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Si on doit résumer l'enseignement de Jésus basé sur la Genèse, l'enseignement de Jésus se résume en une expression simple, un homme, une femme pour la vie. Il y a des exceptions, mais le principe est clair, et je parlerai des exceptions dans un instant. On peut élaborer ce petit résumé, on peut l'étoffer. Un homme et une femme pour la vie, c'est pourquoi, la phrase commence comme ça, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère. Dans le contexte immédiat, le « c'est pourquoi » se réfère au fait que Dieu a voulu que l'être humain soit composé, enfin que l'humanité soit composée d'hommes et de femmes. Il y a une profonde identité, « os de mes os, c'est chair de ma chair », dit Adam. Oui, Ève, qui est quand même assez différente de lui, c'est quand même la même humanité qui est là. Il y a des différences. Les femmes ont deux chromosomes X, les hommes un chromosome X et un chromosome Y. Ils n'ont pas la même morphologie. Ils ne concourent pas dans les mêmes épreuves sportives. Les femmes mettent au monde des enfants, pas des hommes. Mais nous faisons partie de la même race humaine. Il n'y en a qu'une. Et la Genèse dit que Dieu a créé l'être humain à son image, homme et femme. Hommes et femmes ont la même dignité et la même mission, se reproduire, remplir la terre, la connaître, la gérer. Avec des aptitudes différentes, des rôles différents, mais ce sont des partenaires profondément solidaires. Le mariage, déjà dès la Genèse, n'est pas un cocon fermé, c'est un projet ouvert sur le monde. C'est pourquoi, à cause de tout ça, l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dans le projet de Dieu, les enfants quittent le nid un jour et la plupart du temps, ils fondent un nouveau foyer. C'est quelque chose qui est visible, c'est quelque chose de public, et ça, c'est la raison biblique derrière une cérémonie à la mairie et à l'église. Au cours de l'histoire et sur les 5 continents, la forme de ce changement public va changer. Mais un élément doit être maintenu. Une nouvelle entité sociale se crée et elle est exclusive. L'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pas à ses femmes. Pas à son cousin ou à son copain. Il s'attachera. C'est pour la durée. Dans la fidélité, quand pas on change de partenaire comme on change de chemise. On peut se poser la question, c'est pas marrant, on peut se dire, mais pourquoi cette permanence? Il y a pour cela une raison biologique et une raison théologique. La raison biologique, c'est que les petits humains ne sont pas comme des bébés gazelles qui sont debout dès la naissance et qui peuvent courir presque aussitôt. Nous ne sommes pas de la famille des gazelles. Encore qu'il y a peut-être des gazelles parmi nous, mais ça c'est autre chose. Nos petits à nous, ils ont besoin d'être nourris, protégés, éduqués pendant de très longues années avant de pouvoir se débrouiller tout seuls. Ils ont besoin de modèles, un père et une mère, pour devenir adultes. Et ce couple doit donc tenir. Être à deux pour élever des enfants, ce n'est pas un luxe. Bien évidemment, le schéma idéal n'est pas toujours possible. Il y a des orphelins, il y a des divorces, il y a des parents indignes. Mais avant de gérer la souffrance et le désordre, et tout ce qui n'est pas normal, on se met en tête le schéma général, un homme, une femme, pour la vie, parce que la biologie va dans ce sens. Et la théologie va dans ce sens aussi, parce que pour la Bible, il y a en l'être humain quelque chose qui reflète l'image du Créateur. L'amour, la fidélité, le don de soi, c'est en Dieu, et nous le voyons à son plus haut point en Jésus-Christ. Nous avons cité Paul, pour qui l'amour entre un homme et une femme peut être comparé à l'amour entre Christ et l'Église. Quand donc vous portez atteinte à l'humain, vous portez atteinte à l'image de Dieu. Quand vous défigurez la relation homme-femme, vous bafouillez le visage de Dieu. Je reviens à la citation. C'est pourquoi, à cause de tout ça, l'homme laissera son père et sa mère, c'est public, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ah, c'est du pain béni pour les psychologues, une phrase comme ça. Non, ce n'est pas que l'un va phagocyter l'autre et que l'autre n'existera plus. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus ce vieux mythe grec comme quoi l'être humain original a été coupé en deux et que les deux morceaux s'efforcent malgré tout de revenir à l'unité. Non. Dès le départ, l'être humain est homme et femme, XX et XY. En dehors de quelques rares anomalies génétiques, l'être humain neutre, cela n'existe pas. Les deux ne feront plus qu'un, ça implique une vraie unité dans la foi et une unité dans le projet de vie. Si vous avez une plus ancienne traduction de la Bible, vous aurez ceci à cet endroit-là. Non pas les deux ne feront plus qu'un, mais littéralement, ils deviendront une seule chair. Voilà une allusion à l'union sexuelle. Et je dis bien union. Union. C'est une expression de l'amour qui vous lie profondément l'un à l'autre. Alors ça peut dévier de son but. Il y a des magasins spécialisés, il y a des camionnettes blanches dans la forêt. Oui. Mais ça vide l'union sexuelle de son sens. Fondamentalement, je dis à Avril, avec toutes mes imperfections, que je l'aime elle seule, que j'ai besoin d'elle, que je suis vulnérable quand je suis avec elle, que je veux lui faire du bien, que je m'engage à prendre soin d'elle. Elle me dit pareil. Ce ne sont pas des mots, c'est le langage du corps. Et ce langage du corps est une promesse qui nous engage. Certaines chansons vont parler de la première fois. Les gens s'en souviennent. Et c'est voulu de Dieu. Il y a tellement de tensions dans la vie, tellement de tensions possibles dans la vie d'un couple, que le corps nous aide à nous donner sans réserve l'un à l'autre. Pas que le corps, mais le corps aussi. Donc, avant le mariage, vous êtes en train de préparer votre vie à Dieu, à deux. Vous vous rapprochez l'un de l'autre, vos projets commencent à s'aligner et vous allez vous préparer à cet engagement de vous aimer, de vous soutenir, d'être fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Imaginons que pour différentes raisons, ce projet n'aboutit pas. L'un se dit qu'il fait une énorme erreur, qu'il se trompe sur la personne. Ça s'arrête là. Vous ne vous donnez pas un signe ultime de permanence et de fidélité avant d'avoir la bague au doigt. Ce ne sont pas quelques grammes d'or blanc qui vous engagent. Ce sont vos promesses devant Dieu et devant les hommes, et l'union sexuelle vient confirmer et renforcer et sceller, avec un seuil, une véritable alliance de vie. Maintenant, quand on est loin de l'idéal que j'ai essayé de brosser pour vous. Dans la vie, tout ne fonctionne pas toujours bien. Il y a des ratés. Il y a des catastrophes. Si je vous ai brossé le tableau général du plan de Dieu pour le mariage, tel qu'il se trouve dans la Bible, c'est pour qu'on ait d'abord en tête le projet, le but, le tableau général. Mais vous pouvez être nombreux dans une assemblée comme celle-ci à penser que ce n'est pas pour vous. Vous êtes divorcé, remarié, et pas qu'une fois. vous avez couché à tout va. Vous avez encore maintenant une relation au mariage. Vous vivez à la colle. Vous êtes en ménage avec un non-chrétien. Il n'y a pas de projet commun véritable. Vous allez sur les sites porno. Vous avez une femme en France et une autre au pays. Vous avez mis une femme enceinte et vous avez fui vos responsabilités. Dans une assemblée de cette taille, je n'ose pas imaginer tous les désordres possibles. Et nous sommes sur un pied d'égalité parce que tous nous avons manqué d'aimer vraiment. Tous, par nos pensées et par nos actes, nous avons été loin du chemin que Dieu trace. Qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a un décalage entre la réalité et l'idéal? D'abord, reconnaître que le plan de Dieu est bon. Les voies de Dieu sont bonnes et justes et parfaites. Et se dire ensuite que si sur un point ou sur un autre, nous ne sommes pas dans les clous, nous pouvons reconnaître que le péché a marqué notre passé et marque peut-être encore notre présent et nous pouvons reconstruire. Donc par rapport à Dieu, une démarche de repentance et demande de pardon. Par rapport à une bêtise que vous avez commise il y a 5 ans pour une pensée ignoble que vous avez nourrie il y a 5 minutes, votre relation à Dieu peut être restaurée. Mais si votre relation avec Dieu peut être rétablie, il reste à reconstruire votre vie au milieu des humains. Vous pouvez bloquer telle adresse mail, tel média social, tel site internet, suffit d'un clic. Mais si vous avez eu plusieurs enfants avec des partenaires différents, si un divorce est en cours et que vous le regrettez, si vos blessures psychologiques sont profondes, c'est pas si simple. Et je ne vais pas vous donner une recette miracle pour en sortir. À la limite, je peux vous en parler personnellement après le culte. N'hésitez pas, le pasteur est là pour ça aussi. On peut parler de votre situation personnelle. Mais pour l'instant, je vais simplement dire ceci. On se met en règle avec Dieu, c'est la repentance, c'est la foi et l'engagement. Avec d'autres personnes qui sont concernées, on prend le temps de prier et de chercher la bonne façon d'avancer. On peut viser à progresser dans le bon sens. Il y a des situations irrécupérables. Toute votre vie vous en porterait le poids. Avec le temps, le fardeau sera peut-être moins lourd. Vous aurez réussi à le confier à Dieu. Et dans d'autres situations, on peut redresser les torts, on peut assumer ses responsabilités, on peut demander pardon, on peut se réconcilier même. L'important est de savoir d'où on vient et où on va. Vous avez peut-être fait naufrage, mais Dieu vous a repêché et vous vous trouvez tout grelottant dans un bateau de sauvetage. Il vous faut vous sécher, trouver de nouveaux habits, vous restaurer et vous mettre en route vers le bon port. La mer reste déchaînée. Vous prenez de temps en temps un paquet de mer en pleine figure. Mais vous avez le meilleur des pilotes. Il s'appelle Jésus-Christ. Et je vais donc terminer avec cette parole que Rémi a citée tout à l'heure. Ce que Jésus a dit à une femme qui avait tout faux. Remarquez que l'homme avait tout faux aussi. Mais personne n'a pensé à l'accuser lui. À cette femme qui a eu tout faux, Jésus dit, « Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Au milieu des débris de naufrage, au milieu des vagues, Jésus donne l'assurance d'un accueil total. Et il montre le cap à tenir. Un cap que nous allons tenir par la grâce de Dieu. Amen.